quatrième temps d'une série d'émissions de La Fabrique de l'Histoire en nouvelle diffusion. Dans cette semaine consacrée à l'identité de villes bousculées par l'histoire, partons ce matin pour Bruxelles pendant la Première Guerre mondiale. Depuis lundi, nous avons dressé les portraits complexes et intrigants de villes comme Bagdad, Lyon ou Sarajevo. Nous allons ce matin gagner la ville de Bruxelles et son sort pendant la Première Guerre mondiale grâce à un documentaire d'Anaïs Quien et de Françoise Camard. On y croise l'héroïsme au quotidien, l'accommodement avec l'occupant en compagnie de Laurence Van Iepersel, Chantal Kestelot et Emmanuel De Bruyne. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin.
Auf von Mann und Gott, und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einmal
Messieurs,
war.
Jamais, depuis 1830, heure plus grave n'a sonné pour la Belgique. L'intégrité de notre territoire est menacée. Partout, en Flandre et en Wallonie, dans les villes et dans les campagnes, un seul sentiment étreint les cœurs, le patriotisme. Une seule vision emplit les esprits, notre indépendance compromise. Un seul devoir s'impose à nos volontés, la résistance opiniâtre. Dans ces graves circonstances, deux vertus sont indispensables. Le courage calme, mais ferme, et l'union intime de tous les Belges.
Bruxelles, 14-18.
On peut commencer une visite mémorielle de 14-18 à Bruxelles, ici au Palais de la Nation, le Parlement. Parce qu'en fait, symboliquement, pour la Belgique, la guerre commence et se termine ici. Parce que le 4 août, le roi, à cheval, la famille royale le suit en calèche, va traverser Bruxelles, il habite au château de Laeken, va traverser Bruxelles et arriver ici. Il y a un monde fou, les gens sont sur les réverbères que vous voyez là, sur les grilles, pour voir passer le roi. Parce que la veille, le 3 août, ils ont appris par les journaux, en même temps, l'ultimatum allemand qui demande le passage dans la Belgique, c'est-à-dire le déshonneur de la Belgique qui accepterait de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités internationales. Un pays neutre doit se défendre. Et le refus clair et net de cet ultimatum par le gouvernement belge. Donc la population, elle est surexcitée, elle est à la fois indignée, stupéfaite, et donc elle va accompagner ce parcours dans Bruxelles qui se termine ici par un retentissant discours du roi. Et on peut dire que s'il est un héros national, il est né à ce moment-là, hein, le matin du 4 août, en disant publiquement devant les chambres réunies que la Belgique se défendra. Et il prononce cette fameuse phrase qu'on va retrouver sur certains monuments, pas à Bruxelles mais en province. Un pays qui se défend s'impose au respect de tous. Ce pays ne périt pas. Dieu sera avec nous dans cette juste cause. Vive la Belgique indépendante. À droite, les conservateurs, eh bien, ils applaudissent, on jette les chapeaux, ils pleurent de tout le... C'est l'émotion. Mais même à gauche, on ne pleure pas là, parce que ce sont des républicains, hein, les socialistes. Mais on applaudit à tout rompre. C'est l'union sacrée autour du roi soldat qui quitte le palais de la nation pour aller rejoindre l'armée. Il fera un deuxième discours à l'armée de la nation le lendemain. Et donc, pour les Belges, la guerre commence là. 2 heures avant son discours, la frontière était effectivement traversée par les troupes du Kaiser. Nous étions envahis. Mais elle se termine aussi symboliquement ici parce que le 22 novembre 1918, le roi, de nouveau à cheval, mais cette fois-ci en uniforme de général en campagne avec son cascadrian, accompagné de la famille royale, mais non plus en calèche, mais elle aussi à cheval, et du groupe armé interallié des Flandres, traverse Bruxelles et se rend au Palais de la Nation. Et là, il va de nouveau faire un discours retentissant qui clôture symboliquement la guerre en se présentant en tant que roi soldat. Hein, parce que la première phrase qu'il dit, c'est « Je vous apporte le salut de l'armée ». Donc, ce n'est pas en tant que chef d'État, c'est en tant que roi soldat qu'il se présente. Et là, il va rendre hommage à tous les morts, à son armée, aux alliés, et puis annoncer le programme politique dont l'élément le plus important sera l'accord du suffrage universel aux hommes de 21 ans, ainsi qu'aux veuves de guerre.
Le 4 août 1914, l'Allemagne viole la neutralité de la Belgique afin de se ménager un passage vers la France. C'est une armée qui avance vite. Les premiers jours de la Grande Guerre, au cours desquels les rumeurs et les baptêmes du feu engendrent exactions et massacres, marquent les Belges pour longtemps. La Première Guerre mondiale à Bruxelles n'est pas celle des tranchées de Verdun et de la Somme. C'est une guerre d'occupation, avec son lot de rationnement, d'espions, de collaboration, de pigeons voyageurs, d'indignation et de résistance. Sur les traces de la Grande Guerre dans les rues de Bruxelles, avec Laurent de Barney-Berzel, Chantal Castelot et Emmanuel Debreuil.
On va aller maintenant à la cathédrale qui est tout près, qui est un autre lieu très très important, puisque c'est aujourd'hui la cathédrale, c'était la collégiale Sainte-Gudule à cette époque-là. Je vous propose d'aller à la cathédrale, où là vous allez voir une statue d'une des grandes figures de ce qu'on appelle la résistance morale à l'occupant. Ceux qui sont fusillés, ce sont des résistants clandestins, qui ont fait du renseignement, du passage d'hommes, mais il y a aussi toute une résistance morale et qui va être incarnée en premier lieu par le cardinal Mercier. Alors ici, vous avez la statue du cardinal Mercier, celui qu'on appelait le grand cardinal, qui est une figure ultranationale. Donc, il n'est pas en Belgique au moment de l'invasion parce qu'il est à Rome pour l'élection de Benoît XV. Il revient après les plus grandes violences et tout de suite, il va prendre position parce que l'Église catholique, elle est un petit peu hésitante. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une période de chaos, donc c'est très bon pour récupérer les âmes. Tout de suite, l'occupant tend la main à l'Église catholique en disant « on vous laissera dans toutes vos prérogatives », parce que les prérogatives catholiques, on n'est pas dans la République laïque française. Hein, il y a une position très confortable pour l'Église catholique en Belgique. Tous vos privilèges, vous allez les garder. Et donc, quelqu'un comme l'évêque de Liège va être hésitant en disant « est-ce que ce n'est pas une occasion de refaire venir les ouailles dans les églises, etc. » Le cardinal Mercier, tout seul, tranche en disant « pas question ». Et il publie sa lettre pastorale « Patriotisme et endurance », où il dit très clairement « il n'y a point de bon chrétien qui ne soit un bon patriote ». Et donc il refuse la main de l'occupant, tout en disant « ils n'ont pas le droit, mais ils ont la force pour eux, et ça ne sert à rien de les affronter directement ». Donc il n'appelle pas à la rébellion du tout. Mais vous ne leur devez aucune considération. En votre âme et conscience, le seul pouvoir légitime, c'est celui du gouvernement et du roi. Et donc, c'est noir sur blanc écrit. Donc, à la Noël 14, ben, on raconte ça dans les églises. Hein, toutes les églises vont lire Patriotisme et Endurance. C'est tellement énervant pour l'occupant qu'on va saisir 40 000 exemplaires pour les détruire. Il n'empêche, pendant toute l'occupation, ça va être reproduit clandestinement et diffusé. Et on en trouve encore aujourd'hui dans les greniers de tous les bons catholiques, quoi, hein. Et à partir de ce moment, il devient la figure de référence du patriotisme, de cette distance patriotique. On ne fricote pas avec les Allemands. L'occupant, voyant que l'Église ne poussait pas à la rébellion, va maintenir les prérogatives de l'Église, même si elle sait qu'on ne pourra pas l'utiliser aussi fort qu'on le voulait. Aussi bien, les églises vont devenir des lieux où le patriotisme s'exprime. L'occupant n'entre pas dans les églises pour mettre de l'ordre. Hein, il n'entre pas. Et donc, on voit les hymnes religieux, et puis tout à coup la Brabançonne qui sort. Sur les autels, il y a aussi bien la statue de la Vierge qu'un drapeau belge. Donc ce mélange de patriotisme et de religion fait qu'un tas de mécréants vont venir, et ils ne sont pas du tout en voie d'être sauvés, hein, pour le dire en termes très catholiques. Non, ils ne viennent pas du tout là pour écouter la bonne parole chrétienne, mais bien pour exprimer leur patriotisme.
Chantal Questelot.
À partir de là, un certain nombre de catholiques vont passer dans un engagement actif. À partir du printemps 1915, va se développer un phénomène qui va devenir très important, qui est la presse clandestine. Et l'un des journaux clandestins les plus connus va s'intituler « La Libre Belgique ». « La Libre Belgique », c'est un journal qui va être vraiment l'occupant. Là, va au contraire le pourchasser. Hein. Vraiment, il y a une volonté absolument de mettre fin à cette espèce de liberté de parole qui est tout à fait scandaleuse pour l'occupant et qui, là, sape en quelque sorte les bases même de son régime d'occupation. Et donc, il va mener une traque sans fin aux promoteurs de ce journal clandestin. Et à chaque fois, ce journal clandestin va réussir à renaître. Et donc là, il y a une espèce de petit miracle. Donc, ce sont une série d'équipes successives qui vont se développer. Et le journal va continuer à paraître malgré des répressions dont il va être victime. Et donc là aussi, c'est, je dirais, une certaine lecture de ce refus incarné par l'Église qui pousse un certain nombre de catholiques à s'engager.
Alors Emmanuel De Bruyne, vous travaillez sur la résistance, sur les réseaux d'espionnage aussi de la Première Guerre mondiale. Mais peut-on réellement parler de résistance ?
Oui, on peut clairement parler de résistance, mais en étant conscient qu'on utilise un mot anachronique, en fait. C'est un mot qui est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on utilise le mot résistance pendant la Première, mais enfin, c'est pour qualifier une attitude plus générale. C'est la résistance de l'armée belge sur l'Isère, par exemple, ou la résistance de l'armée française à Verdun. Mais ce n'est pas une lutte clandestine contre un occupant. Mais on peut tout à fait parler aujourd'hui, décrire ce phénomène de lutte clandestine en le qualifiant de résistance, parce que finalement, sous de nombreux aspects, il s'apparente au phénomène de la Seconde Guerre mondiale qu'on va connaître en Belgique, en France et ailleurs. Mais, et c'est important, tant en Belgique qu'en France occupée, c'est un phénomène qui ne va quasi jamais prendre la forme de résistance armée. Donc il n'y a pas de maquis. Il y a assez peu de sabotage, on n'assassine pas non plus des soldats allemands, donc c'est une forme de résistance assez différente. C'est beaucoup plus du renseignement, de l'aide à l'évasion, de la presse clandestine évidemment. Pour l'ensemble du pays, on compte, rien que pour le renseignement, environ 200 réseaux. 200 réseaux mais qui sont souvent de très petite taille. Ce sont vraiment des toutes petites structures en général de quelques dizaines d'individus. Le plus gros réseau, et c'est vraiment une exception, compte environ 1 000 000 d'agents en 1918. Et c'est un réseau qui démarre à Liège et qui s'étend à peu près sur l'ensemble de la Belgique et aussi sur une partie du nord de la France. En fait, le phénomène de résistance en France occupée et en Belgique ne peuvent pas vraiment être séparés l'un de l'autre, tout simplement parce que les réseaux qui se créent en France ont de toute façon besoin de la Belgique pour pouvoir exfiltrer les individus pour l'évasion, exfiltrer les renseignements aussi pour les réseaux d'espionnage par les Pays-Bas.
Comment commencent les mouvements de résistance en Belgique ?
Alors d'abord, on ne parle pas de mouvements, ce sont des réseaux. Les mouvements, ça c'est propre à la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'a pas de grands groupes qui ont vraiment une très large assise sociale, qui ont un projet de société, non. Ce sont des réseaux qui se construisent autour d'un ou deux objectifs fonctionnels. C'est-à-dire, c'est faire du renseignement, de la presse clandestine, etc. Je pense que le plus connu de tous, c'est celui qui va organiser le journal clandestin La Libre Belgique. Et il y a toujours un des principaux quotidiens francophones en Belgique aujourd'hui qui s'appelle La Libre Belgique et qui en est en quelque sorte l'héritier. Ça, c'est vraiment un nom qui a pratiquement un siècle aujourd'hui. Alors ça, c'est un groupe qui se crée en février 1915. Ce journal clandestin, il a une forte connotation patriotique, évidemment, mais aussi assez catholique. Et en fait, il se crée dans les milieux de la presse catholique. Et aussi, il est soutenu, notamment, en tout cas, par les jésuites. C'est un journal clandestin aussi qui dispose d'assez bien de moyens et d'assez bien de réseaux, mais dans le sens social du terme, qui sont déjà constitués. Alors ça lui permet de diffuser à travers tout le pays et ça lui permet aussi d'obtenir un tirage assez important. Il faut se dire qu'à son heure de gloire, c'est-à-dire quelques mois après le début, donc vers, je dirais, été-automne 1915, La Libre Belgique tire à 20 000 exemplaires, de manière pratiquement hebdomadaire. Alors, le journal ne parviendra pas à tenir ce rythme pendant toute la guerre, d'autant que les Allemands sont assez trousses, évidemment. Il va y avoir des vagues d'arrestations, il y aura des difficultés matérielles, parce que produire ça, ça demande d'être discret, évidemment, mais ça demande aussi du papier, de l'encre, du matériel d'imprimerie, ce qui n'est pas spécialement facile à obtenir et qui coûte cher aussi. Et c'est ce qui va être fatal à un certain nombre de clandestins qui se créent pendant la guerre. On en a qui se créent en fait dès 1914. Les premiers clandestins, ce sont vraiment des petites entreprises très artisanales, c'est-à-dire essentiellement on recopie des journaux alliés, le Figaro, le Temps, qui parviennent clandestinement en Belgique. On les recopie et au fond, ces petits clandestins qu'on distribue à quelques dizaines ou quelques centaines d'exemplaires servent de caisse de résonance à la presse alliée, dont le pays, puisqu'il est occupé, est coupé. Et les gens, non seulement ont besoin d'informations, mais ils ont besoin aussi, à travers cette information, d'avoir un contact avec leur propre camp, avec la guerre qui continue.
Très vite, la population va être confrontée à des situations de faim. La Belgique est un pays qui a importé à peu près 80% de ses denrées alimentaires avant la guerre. Donc, va très vite se poser, à cause des conditions de blocus, comment nourrir cette population. La Belgique, en tant que pays agressé, va devoir faire appel au secours international. Je dirais que c'est le premier grand pont alimentaire de l'histoire de l'humanité qui va s'incarner à travers la Belgique, à travers la Première Guerre mondiale, à travers ce qu'on appelle la Commission for Relief in Belgium, grâce à l'aide des États-Unis, grâce à l'aide d'un certain nombre de diplomates neutres en poste en Belgique, qui vont permettre de continuer l'approvisionnement de ce pays. Donc là aussi, les conditions matérielles sont évidemment un aspect tout à fait important pour comprendre la dureté et la difficulté pour la population de survivre et de continuer à vivre au quotidien dans ce contexte de guerre. En 1914, on est dans une logique d'affrontement très dur. Par exemple, les autorités communales, très vite, vont refuser un certain nombre de choses. Le bourgmestre de Bruxelles va être arrêté. On n'est vraiment pas dans une attitude où on essaye de trouver comment, au fond, coopérer, comment trouver une espèce de modus vivendi. De même, l'occupant, très vite, va essayer de s'emparer de l'appareil industriel, voire le démanteler aussi pour essayer d'encourager la main-d'œuvre à venir travailler spontanément en Allemagne, une politique qui échoue complètement. Mais on est véritablement dans une logique d'affrontement qui va aussi déboucher au printemps 1918 sur la grève de la magistrature. En 1940, et c'est sur base de cette expérience de la Première Guerre, on va au contraire essayer d'éviter tous ces dysfonctionnements, toutes ces difficultés, et voir en sorte comment est-ce qu'on peut travailler avec un occupant sans qu'il touche à notre main-d'œuvre, sans qu'on touche à nos industries. Comment est-ce que les autorités communales peuvent coopérer pour pouvoir continuer malgré tout à se maintenir en place? Et il ne faut pas oublier non plus qu'en 1940, il y a une crise de la démocratie. Et cette crise de la démocratie, elle est commune, elle est partagée aussi par une partie des élites belges. Donc autant il y a cette logique d'affrontement entre les élites belges de 1914 et l'occupant allemand, autant en 1940, il y a un contexte qui est différent.
Est-ce qu'on peut malgré tout parler de collaboration des élites belges pendant la Première Guerre mondiale à Bruxelles, Laurence Van Niepersel?
Oui, alors il ne faut jamais confondre, parce que les mots sont très très connotés Deuxième Guerre mondiale, mais il y a plusieurs types d'incivisme, ça c'est le mot de l'époque, hein, les traîtres à la patrie, oui il y en a. Alors il y en a de différents types, il y a dans cette univers de pénurie alimentaire économique, bien sûr qu'il y a la trahison économique, les profiteurs de guerre, les barons zèpes, on disait à Bruxelles, hein, les barons savons. C'est tout le marché noir, hein, ceux qui vendent à des prix absolument invraisemblables, les usines qui continuent de tourner tout en sachant que toute une partie de la production est prise par les Allemands, utilisée par les Allemands. Mais c'est aussi un peu la quadrature du cercle, hein, pour certains industriels. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'occupation, dans cette guerre qui est si claire? On sait tellement bien où sont les bons et les méchants qui font qu'il y a cet affrontement fort. Sur le moyen terme, c'est quand même pas évident. Et donc, selon les cas, ben, les uns vont fermer leurs portes, les autres vont accepter certaines choses et certains vont carrément en profiter. C'est tout à fait clair. Il y a des trafics de chevaux, etc., qui vont, de bière même, qui vont se passer. Donc ça, c'est un type de collaboration et qui est très très lié au contexte économique de l'époque. Alors d'autres qui vont être les traîtres les plus honnis, mais ils sont très peu nombreux, et qui vont faire vraiment péter les plombs à la population, qui va même réclamer l'exécution de la peine de mort pour ces gens-là, ce sont ceux qui vont travailler avec les services du contre-espionnage allemand pour démanteler les réseaux de résistants, de patriotes.
comble d'antipatriotisme.
Voilà, comble d'antipatriotisme. Alors ces gens-là, en général, ce sont des déclassés sociaux, des marginaux, des gens qui crèvent de la misère. Il y a aussi, mais on devrait avoir une étude complète là-dessus, hein, mais il y a aussi des Allemands, enfin des gens d'origine allemande qui ont très très mal vécu les violences qui leur ont été faites, qui sont des violences, pas physiques, mais en tous les cas symboliques, des carreaux brisés, des pianos qui volent, une stigmatisation. Dans les premiers jours d'Ou 14, dès le moment où on connaît l'ultimatum et le refus de l'ultimatum, eh bien, la population exaspérée va s'en prendre à ces communautés allemandes qui parfois étaient très très bien intégrées. Et donc on a des cas, évidemment c'est toujours rare, hein, ils ne sont pas nombreux ces gens-là, hein, et qui disent ben, « oui, j'ai collaboré avec les Allemands parce que début août, les Belges ils m'ont bien fait sentir que j'étais allemande ». Et donc, ben oui, Donc ceux-là, ils sont vraiment ceux qui, au sortir de la guerre, c'est le sommet de la trahison. Et puis, il y a la trahison politique, la trahison de l'État belge, et ce sont les activistes flamingants, qui ne sont pas reconnus, qui sont rejetés par les grands pontes du mouvement flamand. Donc ce sont des gens qui sont une petite minorité, et qui vont accepter la main tendue par l'occupant. Donc l'occupant divisé pour mieux régner. Ils vont d'abord proposer ça aux socialistes, hein, en disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a en Belgique? Bon, le socialisme internationaliste, etc., peut-être qu'on pourrait. Paf, niet. Les socialistes n'acceptent pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein, il y a la question culturelle. Hein, il y a des revendications culturelles. Ils ne sont pas tout à fait contents. Les lois linguistiques, notamment dans l'enseignement, ne sont pas vraiment appliquées. Et puis, il y a la demande d'avoir une université flamande qui n'a jamais été reçue avant la guerre, ça vous n'y songez pas. Dans le primaire peut-être, dans le secondaire, ça passe déjà pas très bien du côté de l'élite francophone, mais une université, ah non, vous n'imaginez pas. Et donc, l'occupant va utiliser ces frustrations-là pour attirer des flamingants, et quelques-uns vont accepter et vont leur donner sur un plateau d'argent une université flamande à Gand. Et puis, une séparation administrative. Donc, on va avoir un conseil des Flandres qui va choisir comme capitale Bruxelles. C'est la capitale des Flandres. Alors que Namur sera capitale de la Wallonie. Et donc, qui va susciter d'ailleurs aussi un petit activisme wallon en réaction. Et puis, à la fin, hein, c'est en janvier 1918, ils vont unilatéralement proclamer l'indépendance de la Flandre. Mais là, ils sont déjà lâchés par les Allemands. De toute façon, ils n'existent que par l'occupant, hein. Parce que la population, y compris néerlandophone, donc ils parlent le flamand, ne les aime pas. Et au sortir de la guerre, eh bien, ils seront aussi agressés, hein, avec aussi des cailloux dans leurs vitres. Mais la négociation de la sortie de guerre va compliquer certainement la donne, parce que tout ce que les grands pontes flamands avaient demandé avant la guerre, que les activistes ont obtenu de la main de l'occupant pendant la guerre, évidemment, est entaché de l'occupation. Et donc, dès que les Flamands vont demander des choses qu'ils demandaient déjà bien avant, en disant, regardez, nous sommes restés loyaux, maintenant donnez-le-nous. Mais non, vous peut-être personnellement, mais regardez, il y a d'autres Flamands qui ne sont pas restés loyaux. Et donc, on va leur donner ce qu'ils veulent, petit à petit, mais vraiment à reculons, centimètre par centimètre, ce qui est particulièrement humiliant. Et donc là, on comprend bien, hein, cet entachement après tant de souffrances, on comprend bien dans l'imaginaire, mais tout de suite, toute revendication flamande rejoint ce que l'occupant a donné. On voit tout de suite le réflexe d'une population qui l'interprète comme ça. Et en même temps, de l'autre côté, les autres qui disent « mais nous, on n'a rien fait et nos revendications sont légitimes ». Et donc là, on va voir un nœud gordien dont on ne se sort toujours pas aujourd'hui, je crois.
Continuons cette balade à Bruxelles sur les traces de la Grande Guerre avec vous, Laurence Van Ypersel, et vous, Chantal Kestelot. Donc notre prochaine étape,
c'est l'Albertine, la statue équestre du roi chevalier.
Alors on se trouve sur cette place où on voit deux statues, une magistrale, une statue équestre, donc c'est la statue du roi, et une toute petite en face qui est la reine Elisabeth. Laurence Van Ypersel.
Tout à fait. Alors on va d'abord parler de celle du roi. C'est vraiment l'incarnation même de la statue du roi chevalier. Donc il est à cheval, en manteau de général en campagne, avec son casque, pas sur la tête, mais à la main. Il est majestueux. C'est une statue qui est inaugurée seulement en 1951 par un grand sculpteur, Alfred Courtens, au moment où on a inauguré aussi les bâtiments de la bibliothèque royale Albert Ier. Donc c'est l'image même du roi chevalier. On a dit au Parlement, le 4 août naît l'image du roi chevalier, il a dit non. Cette image va se poursuivre et s'amplifier pendant toute la guerre parce que c'est le seul chef d'État et chef d'armée qui reste aux côtés de ses soldats pendant toute la durée de la guerre. Donc il va même jusque dans les tranchées de première ligne faire des visites. Il n'y reste pas très longtemps. Ce qui fait l'adoration de ses soldats. C'est le vrai roi. D'ailleurs, le terme roi chevalier est un terme qui vient de l'extérieur. Le terme de l'intérieur, c'est roi soldat. Et ses soldats l'adorent pour deux raisons. D'abord parce qu'il est présent. Il n'est pas de ces généraux qui sont dans leur palais ou bien planqués. Hein. Il y a tout cet imaginaire du planqué, les hauts gradés, eux, ne souffrent pas comme nous. Là, c'est un roi qui met la main à la pâte, qui fait des visites. Alors, il ne vit pas dans les tranchées comme les soldats, bien entendu, mais enfin, il se fait proche. Par ailleurs, il refuse de se considérer comme l'allié des alliés. Les alliés ne sont que ses garants. Nous sommes un pays neutre. Cette neutralité est devenue évidemment fictive, mais il la maintient sur le papier, ce qui lui permet de refuser de participer aux grandes offensives meurtrières, style Verdun, Somme, Passendal, parce qu'il n'y croit pas. Il ne croit pas à cette stratégie. Résultat des courses, les soldats savent très bien que leur vie est protégée par le roi. Et donc ça va aussi faire partie de son mythe. C'est un homme simple qui aime la vie de ses soldats, qui protège la vie de ses soldats, qui participe à la vie de ses soldats. Et donc il est l'incarnation de l'armée belge, qui elle-même est l'incarnation de la nation tout entière. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette statue. En face, et ça je vais laisser Chantal parler, c'est la représentation de son épouse, la reine Elisabeth, qui était la reine infirmière, qui est aussi très populaire, parce que c'est un couple populaire. Il y a le roi soldat et la reine infirmière.
C'est une statue qui date des années 1980, donc on a un vrai décalage chronologique. C'est aussi révélateur. En général, les reines sont peu présentes sous forme de statues dans l'espace public. Alors, reine infirmière, effectivement, et la figure, autant on est quand même dans une société en 1914 où les rôles sont quand même relativement figés, déterminés. Le roi incarne le roi soldat, la reine, c'est la reine infirmière. Et donc là, c'est évidemment aussi intéressant en termes de représentation. Le roi est sur son cheval, il est en plus sur un socle, il est sur une hauteur. Hein. On est ici au Mont des Arts, on a derrière vous, vous avez ce qu'on appelle le haut de la ville et de l'autre côté, le bas de la ville. Et donc, elle est sur un socle beaucoup plus modeste, elle est dans un maintien tout à fait modeste. La statue a été amputée de ses bas-côtés qui ont été déplacés. Et donc, l'impression d'une petite reine par rapport à un grand roi est encore renforcée par la topographie des lieux.
Alors, le roi Albert ne reste pas à Bruxelles pendant l'occupation. Où passe-t-il la guerre ?
À La Panne. Donc, il est vraiment... La Panne, c'est un petit village à l'arrière des tranchées. Donc, il va rester sur le territoire national pendant toute la guerre. Il refuse de suivre, par exemple, le gouvernement en France. Le gouvernement, il est au Havre.
Et donc, à Sainte-Adresse.
À Sainte-Adresse, au Havre. Et c'est son chef de gouvernement, le Charles de Broqueville, qui fera le lien, l'estafette, et plus que l'estafette, le lien très très fort entre le roi et le gouvernement. Parce qu'entre le roi et le gouvernement, il y a des positions qui ne sont pas toujours les mêmes. Il y a un certain nombre de ses ministres qui... l'amour des alliés, serait tout à fait d'accord de renoncer à la neutralité et de faire de la Belgique un allié des alliés. Pas question pour le roi.
Alors, liégeois, marchez à ma voix, parlez à la victoire. La liberté de la cité, au combat de gloire.
Donc là, on se trouve dans la partie basse. On était dans la partie haute de la ville.
Nous sommes en train d'aller vers la partie basse. Elle continuera à descendre. Alors, Gabrielle Petit, c'est une patriote, une résistante, donc, qui a fait du renseignement, qui a distribué des livres belgiques clandestines, parce que la résistance n'était pas tout à fait cloisonnée. On faisait plusieurs types de résistance différents, ce qui évidemment augmentait les risques de se faire prendre. Et donc elle s'est fait dénoncer par un agent double et elle va être condamnée au Sénat et fusillée au tir national de Bruxelles à Schaerbeek le 1er avril 1916. Alors, c'est une elle est originaire de Tournai, elle a 23 ans. C'est une fille d'origine plutôt humble. On dit que c'est une humble employée. On sait par sa biographie qu'elle a eu des passages difficiles et qu'elle a frisé les milieux de la prostitution. Donc elle va s'engager dans la résistance. Et condamnée, elle va être l'une des prisonnières les plus insupportables de Saint-Gilles, dit-on. Parce qu'elle crache à la figure de ses geôliers, elle ne répond pas aux interrogatoires, ou bien elle se met à injurier ses interrogateurs.
D'ailleurs, la statue est assez parlante.
Voilà, elle est très fière, très, très noble. Et elle est peu connue, hein, vu qu'elle est d'un milieu modeste, elle est peu connue pendant l'occupation. Alors, sa sœur va faire dire des messes, et puis le syndicat des employés va faire dire des petites choses. Mais au moment où elle meurt, en 16, on n'a pas une messe posthume sans le corps, comme pour Philippe Beau, qui lui est un personnage donc, qui est fusillé en 1915, qui lui est un architecte scarbécois, donc il y a un réseau relationnel qui est très important. Donc quand on sait qu'il est mort, eh bien tout le monde va à l'église. Elle, c'est une figure beaucoup plus anonyme. Et la grande figure pendant l'occupation, c'est la femme qui est fusillée aux côtés de Philippe Beau, qui n'est personne d'autre que Edith Cavell, une infirmière britannique qui s'était installée depuis longtemps en Belgique et qui avait décidé de rester en Belgique.
Alors, Edith Cavell et Philippe Bauque vont être en quelque sorte unis dans la mort, puisqu'ils sont exécutés ensemble le 12 octobre 1915.
Emmanuel Debreuil.
À l'issue d'un procès qui va faire énormément de bruit, hein, puisque Edith Cavell va être, son cas va être monté en épingle par la propagande alliée pour fustiger la barbarie allemande, une fois de plus, en quelque sorte pour relancer cette grande opération de dénigrement de l'Allemagne. Edith Cavell, c'est une infirmière britannique qui, quelques années avant la guerre, eh bien, est venue en Belgique pour devenir directrice de la première école d'infirmières laïques belge. Alors, à l'automne 1914, elle est impliquée dans le passage de soldats britanniques. La plupart de ces soldats britanniques sont des soldats britanniques qui se sont battus lors de la bataille de Mons, donc en août 1914. C'est un des épisodes de la bataille des frontières. C'est en fait le premier engagement entre l'armée britannique et l'armée allemande. Et à l'issue de cette bataille, où les Britanniques sont contraints de reculer, eh bien, un certain nombre de leurs soldats disparaissent dans la nature, ils sont dépassés par les Allemands, ils doivent se cacher. Ils vont être abrités dans toute cette région de Mons et du Borinage, mais aussi dans le nord de la France. Ils vont être abrités par des locaux, par des habitants. Et petit à petit, eh bien, ces habitants vont entrer en contact les uns avec les autres, et puis vont entrer en contact avec Bruxelles pour essayer d'évacuer ces soldats. Et l'hôpital d'Edith Cavell va servir de point de rassemblement avant l'exfiltration proprement dit vers les Pays-Bas. Et puis, au bout de quelques mois de cette aventure, les Allemands, probablement par différents moyens, notamment par des surveillances, par des agents provocateurs aussi, le fin mot de l'affaire n'a jamais été connu. Il y a plusieurs mouchards, plusieurs traîtres qui ont été épinglés, mais il est assez difficile de dire lequel, et même si il y en a un qui a vraiment eu un rôle tout à fait décisif. Toujours est-il qu'à partir de la fin juillet 1915, et lors des semaines qui suivent, les Allemands vont pratiquer un grand coup de filet contre le réseau, mais une trentaine de personnes vont comparaître en octobre 1915 devant le Conseil de guerre à Bruxelles, le Conseil de guerre qui va se tenir dans le Parlement belge. Il va y avoir une série de condamnations à mort. En fait, la plupart des membres du réseau vont être condamnés plutôt à des peines de travaux forcés. Mais cinq d'entre eux vont être condamnés à mort, dont deux seront exécutés quelques jours après la tenue du procès. Pour Philippe Bauque, qui est un architecte bruxellois, relativement connu, non pas parce qu'il a spécialement été impliqué dans de grands projets architecturaux, mais parce qu'il a été impliqué dans une série de rénovations de grandes maisons, de manoirs, de la noblesse belge ou de la haute bourgeoisie. Donc il dispose de contacts aussi au sein de groupes sociaux relativement aisés, ce qui va probablement contribuer évidemment à ce que sa mémoire soit soutenue après la guerre. Donc Philippe Bauque, il est complètement oublié sur le plan international. Hein, tous les projecteurs sont braqués sur Cavel alors qu'ils ont été fusillés ensemble et pour les mêmes raisons. Mais par contre, en Belgique, et surtout à Bruxelles, il faut bien le dire, Philippe Bogue va vraiment être épinglé comme un héros, pratiquement un héros national, ou en tout cas un héros bruxellois, certainement. Même s'il n'aura jamais le retentissement, le rayonnement que Gabrielle Petit, notre Jeanne d'Arc belge, va avoir pendant tout l'entre-deux-guerres en Belgique.
Au sortir de la guerre, eh bien, c'est elle qui va prendre le pas sur Edith Cavell en Belgique. Elle va devenir vraiment l'incarnation de la Belgique résistante occupée.
On sent une force dans l'exécution de la statue. Là, on a changé d'angle et on a au premier plan ce point.
Voilà, elle va être virilisée. Elle va être complètement virilisée. C'est une allégorie de la patrie. On dit en deux mots que oui, elle était jolie, mais toutes ses caractéristiques, et on le voit dans les biographies, les hagiographies plutôt de l'époque, c'est elle répondit virilement. On a le mot vraiment tout clair. Elle refuse le bandeau. C'est pas vrai, elle l'a pas refusé en réalité, mais enfin, c'est pas grave. Elle voulait le refuser. Ben, pour être fusillée, on mettait un bandeau. Elle a le bandeau en main. Hein, elle arrache son bandeau pour dire, regardez, vous allez voir comment une femme belge sait mourir. On arrache le bandeau, moi je regarde la mort en face. Et au moment où elle meurt, elle aurait dit, vive la Belgique, vive le roi. Et puis, hop, elle s'écroule. Et alors là, on a des descriptions lyriques du sang de l'héroïne qui se verse sur le sang de la patrie, qui ne font plus qu'un, enfin, tout ce que vous voulez. Elle devient véritablement une allégorie de ce que la Belgique veut se souvenir. Et on n'a plus besoin d'une martyre comme Edith Cavell. On a besoin de cette Belgique occupée. Et on sait bien ce que c'est l'occupation. C'est, oui, on résiste, plus ou moins. Il y a des coups de déprime, il y a des compromissions. Etc, etc. Et donc, c'est la figure qui réinvente le souvenir que l'on veut avoir d'une occupation où tout le monde a refusé l'occupant. Ce n'est pas tout à fait faux. On force le trait. Et la statue force bien le trait avec cette attitude extrêmement fière et qui défie l'occupant. Hein, vous allez voir, moi je m'en fous si je suis morte. C'est pas grave. De toute façon, la Belgique, elle continue. Et il n'y a que ça qui importe. Et c'est ce que cette statue montre très très bien. C'est aussi un sculpteur très prisé de l'époque, Égide Rombaud. Il a vraiment pignon sur rue. Hein, et donc c'est lui qui va faire cette statue qui est inaugurée en 1923 en présence de la reine Elisabeth. Et alors vous voyez cette petite place et toutes les rues alentour sont bondées de monde au moment de l'inauguration de cette statue qui est régulièrement fleurie. Alors Égide Rombaud, il est intéressant parce que c'est aussi lui qui a fait la statue du cardinal Mercier. J'ai oublié de vous dire. Et c'est très bien que j'ai oublié parce que vous voyez cette statue très, très forte, très patriotique. Égide Rombaud est relativement jeune en 1923. Quand il fait la statue du cardinal Mercier, il est beaucoup plus âgé. Et pourtant, c'est une sorte d'acte de résistance parce qu'il meurt en 1942. En fait, il fait clandestinement cette statue.
Cette statue immense, pourtant.
Immense. Donc, dans ses ateliers, il le fait en privé. Cette statue immense du cardinal Mercier, entre 40 et 42, au moment de sa mort. Et elle ne sera inaugurée qu'en 54.
On va quitter Gabrielle Petit avec Chantal Questeloup et Laurence Van Ypersel.
On va à la Bourse. La Bourse est un lieu très important pour les Bruxellois qui veulent s'informer en 14. Et donc, c'est ici qu'on vient lire les journaux. Toute la Bourse était placardée, donc dans les premiers jours d'août, tous les avis, mobilisation, ultimatum, les grandes feuilles de journaux. Donc, dans les premiers jours d'août 14, c'était rempli de monde. On allait lire tout ce qui se passait.
Il n'y a vraiment aucune communication entre le gouvernement belge en exil à Sainte-Adresse, à côté du Havre, et la ville de Bruxelles.
Alors, il y a des communications, évidemment, entre les magistrats qui vont demander ce qu'ils doivent faire, entre les édiles, entre les autorités même religieuses. Donc, il y a des courriers qui passent par le courrier diplomatique, il y a des missions. Mais ce n'est pas régulier, c'est difficile, parce que c'est un pays en cage, si on veut. Et donc, c'est pas qu'il n'y a pas aucune... Non, bien sûr, il y a des liens. mais sporadique, contrôlé, etc. On ne peut pas traverser le front, c'est impossible. La seule porte ouverte, c'est vers l'Allemagne, ça n'a pas grand intérêt. Et au nord, c'est par là que des milliers, des centaines de milliers de réfugiés vont partir en 14. C'est vers la Hollande qui est neutre, les Pays-Bas, qui vont rester neutres pendant toute la guerre. Mais ça, c'est une porte ouverte. C'est d'ailleurs par là que les clandestins vont s'en aller. C'est par là que les renseignements vont passer. C'est par là que les gens vont rejoindre le front. Mais à partir de 1915, les Allemands vont bâtir une barrière électrifiée avec un voltage mortel. Donc on peut dire vraiment, on est dans une cage. On ne peut plus passer sans l'autorisation ou sans la clandestinité. Et donc les liens entre le gouvernement et le pays occupé, eh bien, ils sont officiellement rompus. Et le Parlement ne se réunissant plus, eh bien, il n'y a plus d'autorité nationale.
Emmanuel De Bruyne, il y a un réseau que j'aime beaucoup, notamment, que je connais assez peu, mais grâce à son nom, la Dame Blanche.
Alors la Dame Blanche, c'est ce fameux réseau né à Liège et qui va compter plus d'un millier d'agents pendant la Grande Guerre et qui sera vraiment le réseau le plus efficace de la Grande Guerre. Il parvient à rendre compte d'une grande partie du trafic ferroviaire allemand en pays occupé, ce qui est évidemment essentiel pour les Allemands, puisque le pays occupé est juste derrière le front. Donc tout doit passer par là, tous les mouvements stratégiques doivent passer par ce mouvement ferroviaire. Et en 1918, eh bien, il pratique une espèce de monitoring, pour employer un horrible anglicisme, du trafic ferroviaire allemand. Quotidiennement, 24 heures sur 24, et plusieurs fois par semaine, eh bien, des courriers partent vers les Pays-Bas pour porter vers les antennes des services de renseignement britanniques le résultat de leurs observations.
Je crois que la question de l'espionnage n'a pas été si évidente que ça pour les résistants belges. Il a fallu que les Britanniques les convainquent de l'utilité, de la nécessité de s'y livrer. Pourquoi ça a été aussi compliqué ?
Oui, pas seulement les Britanniques. Hein. Les Français et les Belges essayent aussi de monter leur propre réseau, surtout au début de la guerre. Et puis vers 1916-1917, ils vont finir par abandonner parce qu'ils se rendent compte qu'à ce petit jeu-là, les Britanniques sont bien meilleurs, notamment parce qu'ils financent mieux leur réseau. Et aussi, il faut bien le dire, parce que ces réseaux sont constitués en général de manière beaucoup plus systématique et avec des règles de sécurité beaucoup plus strictes, ce qui fait que les initiatives des services de renseignement belges et français passent un peu pour de l'amateurisme à côté de ce que font les Britanniques. Mais ce n'est pas évident, effectivement, de convaincre quelqu'un, pendant cette Première Guerre mondiale, de le convaincre de faire de l'espionnage. Parce que rien que le terme espion, eh bien, garde une connotation extrêmement négative. Espion, ça sonne comme une injure pour la plupart des honnêtes citoyens belges et français qui seraient susceptibles d'être recrutés. Dans leur imaginaire, un espion, c'est un mouchard, quelqu'un qui travaille pour une puissance étrangère, et puis c'est quelqu'un aussi qui est soupçonné de vénalité, donc qui va travailler pour de l'argent.
Donc, on n'est pas du tout dans la représentation romantique qu'on en a aujourd'hui, finalement, de l'espion.
Ah non, en 1914, c'est clair que James Bond n'a pas encore été inventé. Mais la Première Guerre mondiale et toute une série d'affaires, des affaires comme... Matahari, Gabriel Petit aussi, Fraulein Doctor, etc., vont créer tout un imaginaire qui va petit à petit contribuer à changer cette figure qu'on a de l'espion dans l'imaginaire belge, dans l'imaginaire français, qui va devenir une figure beaucoup plus positive parce que, avec la Première Guerre mondiale, on va se rendre compte que l'espion peut aussi être un héros. On a l'espion patriote qui vient s'ajouter à l'espion ennemi dans l'imaginaire de la population. Mais donc, pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas si évident. Donc, il faut convaincre les gens, parfois, en usant de beaucoup de patience, que ce n'est pas de l'espionnage qu'ils vont faire, c'est du renseignement. Alors, dans les faits, c'est tout à fait la même chose, mais voilà, il faut utiliser un autre terme pour leur dire, non, vous allez faire du renseignement, vous allez faire de l'observation militaire. L'observation militaire, ça c'est bien, hein, ça c'est propre dans leur imaginaire. Et ce que vous allez faire, ce sera utile à notre cause. Hein. Pour chaque train que vous voyez passer, imaginez le nombre de braves soldats belges, français et britanniques qui se battent pour votre libération et que vous allez pouvoir sauver. Donc, engagez-vous dans l'espionnage. Et on a une série de réseaux qui vont se créer comme ça. Mais il y a quand même un deuxième argument. c'est que pour faire de l'espionnage, et notamment l'espionnage ferroviaire, hein, qui est le fer de lance du renseignement allié en pays occupé, il faut être disponible 24 heures sur 24, et si possible, eh bien, on va engager toute une famille qui, depuis le domicile familial, va observer la voie ferrée qui se trouve à proximité. Mais ça veut dire que si toute la famille s'y met, eh bien, cette famille risque de se priver de revenus et risque de voir augmenter ses dépenses, ne fût-ce que les dépenses de charbon, par exemple. On a très peu de charbon pendant la guerre, les gens ont à peine de quoi se chauffer, et pourtant, il faut rester éveillé 24 heures sur 24. Il faut se relayer à cette fenêtre pour prendre note, très rapidement, de toutes les caractéristiques du train qu'on vient de voir passer. Hein. Le nombre de wagons, si ces wagons sont couverts ou pas, s'il y a des wagons qui contiennent des officiers, de l'artillerie, des munitions, est-ce qu'il y a un petit fanion bavarois ou prussien pour pouvoir identifier l'unité, etc. Donc, ça demande vraiment une mobilisation totale du quotidien de ces familles. Par conséquent, il va falloir financer ces familles.
Après les siècles d'esclavage, le belge sortant du tombeau a reconquis par son courage.
On arrive à la fin de notre promenade historique dans Bruxelles. Là, nous sommes place sur les deux Chaupiers, devant un monument qui s'intitule la Brabançonne.
Oui, c'est un monument un peu particulier qui est, je vous avais dit, la Belgique termine symboliquement la guerre le 22 novembre 1918 avec cette extraordinaire joyeuse rentrée du roi à la tête des troupes interalliées.
Laurence van Niepersen.
Et pour accueillir son roi soldat, la capitale s'est mise en fête. Elle est complètement épuisée au niveau financier par 4 ans d'occupation, mais il débloque des crédits vraiment considérables pour mettre des drapeaux partout, des immenses mâts de 15 mètres, et vont créer en stuc 8 monuments, donc très 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 rapidement, entre le 11 et le 22 novembre, qu'ils vont placer un peu partout dans la ville pour rendre hommage aux alliés et pour rendre hommage à la Belgique combattante, donc militaire. Et il y a cette statue de la Brabançonne qui est une représentation de l'allégorie de la patrie tenant le drapeau, mais qui est vraiment triomphante pour le coup par rapport à celle qu'on vient de voir qui tenait son drapeau contre sa joue comme un doudou pour ne pas pleurer. Ici au contraire elle le tient à un mètre d'elle claquant au vent, et ça représente la Brabançonne, le sculpteur est Charles Samuel. C'est le seul des 8 monuments en stuc qui a été coulé dans le bronze. Tous les autres ont disparu, on ne les a plus que par carte postale, et celui-là il a été coulé dans le bronze quand en 1930 pour le centenaire de la Belgique. Donc c'est une allégorie vraiment de la patrie qui est née, certes en 1830, mais 100 ans après, on parle plus de la naissance de par la Grande Guerre, hein, née dans le feu et dans le sang, que de la Révolution belge. La Révolution belge, c'est la naissance du corps de la Belgique. La Grande Guerre, c'est son arme.
Alors il y a évidemment tous ceux pour qui la fin de guerre sonne aussi la fin d'une certaine période. C'est par exemple pour une série de profiteurs de guerre dont on a parlé tout à l'heure, c'est la fin, donc on va s'en prendre à eux, on s'en prend aux bâtiments, on s'en prend à ceux qu'on estime qu'ils se sont enrichis sur le dos de la guerre. C'est aussi pour un certain nombre de femmes qu'on accuse d'avoir eu des relations avec des soldats allemands. Il y a quand même pas mal de soldats allemands qui sont restés à Bruxelles pendant toute la guerre. Certaines femmes, par des soucis de misère, soit se sont prostituées, soit ont eu des relations avec des soldats allemands.
Pour ces femmes sentimentales.
Même sentimentales, tout à fait. Et donc pour ces femmes-là, la sortie de guerre, ça va être l'occasion de femmes exhibées dans l'espace public, de femmes tondues. Donc on a des épisodes qu'on associe plus volontiers à la fin de la Seconde Guerre, mais qu'on trouve déjà à la fin de la Première Guerre. Donc les sorties de guerre, il y a à la fois cette exaltation, c'est la fin, c'est l'idée d'une victoire, mais il y a quand même aussi une société qui souffre et qui va exprimer sa souffrance en sélectionnant une série de boucs émissaires.
Et le grand symbole qui clôture la guerre, eh bien, c'est le soldat inconnu, alors je vous propose d'y aller.
Effectivement, ce lieu est devenu un vrai symbole, tant et si bien qu'en 1940, au moment de la deuxième occupation,
Chantal Castelon,
le 11 novembre 1940, à des premiers moments où, je dirais, une forme de patriotisme bruxellois va commencer à s'exprimer, cela se passe ici, également à d'autres monuments, notamment au palais devant le monument du palais de justice, monument britannique, et donc des Bruxellois viennent déjà dès la veille déposer des gerbes, viennent, passent, et simplement, on a quelques témoignages photographiques qui nous montrent ça. Évidemment, cette première manifestation patriotique va susciter une colère phénoménale de la part de l'occupant, d'autant qu'en Belgique, le calendrier fait en sorte que le 11 novembre se précède de quelques jours la date du 15 novembre, qui est en fait la fête du roi. Et donc l'occupant craint très fort qu'à l'occasion de cette fête du roi, enthousiasmé par ce qui s'est passé le 11 novembre, il y ait d'autres manifestations patriotiques. Et donc il y a très rapidement des interdictions qui sont mises en place. Mais donc effectivement, à travers cette symbolique du 11 novembre, dans le vécu de la seconde occupation, on a là quelque chose qui va être un ferment du développement d'une presse clandestine, d'un mouvement patriotique qui va petit à petit donner lieu à de véritables engagements de résistance. De même, en septembre 1944, lorsque les Allemands s'en vont, un des premiers lieux où les Bruxellois vont venir pour rendre hommage, pour signifier que l'occupation est terminée, c'est une nouvelle fois ce soldat inconnu. Donc je veux dire, à la fois aujourd'hui c'est un lieu en crise, mais c'est un lieu qui, dans des moments de crise de l'identité, a pu faire sens, a pu être un lieu symbole, un lieu ressource. Donc aujourd'hui on essaye de redonner un sens qui dépasse, je dirais, l'héritage strict des deux guerres mondiales, qui reste le socle de départ, qui lui-même s'inscrivait dans une rhétorique qui remontait à la création de la Belgique. Donc en fait, c'est l'idée de couches qui se superposent pour façonner en quelque sorte la légitimité de cette identité nationale que pourrait incarner cette flamme aujourd'hui.
Mark our place, and in the sky the larks still bravely singing fly.
Merci à Laurence von Hipperzeel, Chantal Questelot et Emmanuel De Breuil. Prise de son, Marcos Darras. Archive INA. Mixage, Claire Levasseur. Bruxelles 14-18, Anaïs Quien, Françoise Camard.
Vous pouvez bien entendu écouter cette balade radiophonique sur le site de France Culture, la commenter si vous le souhaitez sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Demain, nous conclurons cette série d'émissions sur les identités de villes bousculées par l'histoire en nous rendant à Beyrouth, un enregistrement de 2014, une promenade dans l'oubli des ruines que veut le Beyrouth d'aujourd'hui, une reconstruction urbaine totale. C'est ce que nous allons suivre dans cette balade urbaine demain matin.